Lire, quel plaisir, Monique.
Oui, quel plaisir en effet, n'est-ce pas? Je
Qu'est-ce que vous
suis
êtes
de
en train de
toute
lire en ce
connaissance.
moment? Je sais que vous êtes une grande lectrice.
Ben, je viens de terminer Baignade de André
Ah,
A. Michaud.
oui, qui a failli gagner au combat national des livres.
Oui, exactement.
Avez-vous eu peur?
C'est un suspense.
Oui.
On est tenu en haleine presque du début à la fin.
Mais quelle écrivaine!
Oui, elle est, mon Dieu, une écriture colorée, je dirais.
Oui, et c'est de la littérature, parce que souvent on a des préjugés là, envers les polars, mais ici, là, on a affaire à une plume de grand talent. L'importance de
Exactement.
la lecture, Monique, allez-y
Oui.
donc.
Alors, le titre de l'article, c'est Pas banal la lecture, et c'est Raphaël de Rome pour Québec Science qui nous offre ce petit bijou, je dirais. Alors, comme on sait lire, ben, mine de rien, on maîtrise une des compétences les plus complexes que le cerveau humain peut acquérir. Alors, banal la lecture, ben, la réponse est définitivement non, Hélène. Parce que, semble-t-il, notre cerveau n'est pas fait pour lire. Enfin, c'est ce que nous dit le neuroscientifique français Stanislas Dehaene dans un ouvrage intitulé, oui, c'est ça, Une idée dans la tête. C'est un ouvrage de vulgarisation qu'il a publié l'an dernier chez Odile Jacob. Alors, si le bébé apprend à parler spontanément au contact des autres, le cerveau n'a aucune prédisposition à la lecture. Tout simplement parce que l'écriture est une invention trop récente, semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité. C'est donc par l'éducation qu'on développe les neurones de la lecture. En quelques mois, l'apprentissage de la lecture engendre une transformation extraordinaire et massive de notre cerveau, raconte ce professeur au Collège de France qui a scanné le cerveau de dizaines d'enfants et d'adultes dans son laboratoire. Alors, petit à petit, dans la zone du cerveau qui sert à reconnaître les visages, certains circuits se spécialisent dans la reconnaissance des lettres de l'alphabet. Cette zone est connectée à celle du langage dans lesquelles on va reconstituer le son des mots, puis leur sens. Une fois acquise, notre capacité à identifier les mots écrits est automatique. On ne peut presque pas s'en empêcher. Si j'affiche un mot connu en vous disant de ne pas le lire, vous allez le lire automatiquement, nous dit le chercheur. Et il ne vous faudra qu'un cinquième de seconde pour le faire. Mais décoder les mots ne suffit pas. On le sait bien, pour comprendre le texte, il faut connaître le vocabulaire, saisir le sens des phrases. Il faut aussi faire beaucoup de déductions pour lire entre les lignes et comprendre ce qui est implicite, ce qui développe la pensée. C'est pour ça que la lecture est vraiment une avenue royale pour le développement cognitif et langagier. Alors, les parents savent bien que la pratique régulière de la lecture par leur enfant développe ses habiletés verbales et son vocabulaire, stimule son imagination et l'aide à réussir à l'école, montre un sondage de YouGov, Y-O-U-G majuscule O-V, qui a mené auprès de 1000 familles canadiennes pour l'éditeur Scholastic en 2017. Mais peu de parents sont conscients que cela améliore aussi les habiletés sociales et l'empathie, plus particulièrement quand on lit des ouvrages de fiction. Parce que elle est si amusante, la fiction est souvent considérée un peu frivole, comme une chose à laquelle les gens sérieux ne devraient pas consacrer de temps. En fait, c'est ce que constate Sandra Martin-Chang, qui est professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université Concordia et spécialiste de la lecture. Et pourtant, pour lire de la fiction, il faut construire un monde dans notre tête, suivre l'histoire, les personnages, ce qui est très exigeant d'un point de vue cognitif. On les imagine, on les voit physiquement, elles sont bien décrites, ces personnes.
Ouais. On
Alors,
devient des réalisatrices ou des réalisateurs, des metteurs en nom, des metteurs en scène.
Oui, tout à fait. Alors, des études ont ainsi montré que ceux et celles qui lisent davantage de fiction sont généralement meilleurs pour décoder les expressions faciales, peut-être parce que les gens déconnent
Oui,
aussi.
peut-être.
Alors, ou encore que les lecteurs et lectrices de fiction entretiennent moins de préjugés sexistes. Voilà une belle découverte, je trouve. Mais en quoi la lecture de fiction est-elle si efficace? Ne pourrait-on pas développer le même genre de connaissances du comportement humain en lisant, par exemple, des livres de psychologie? Ben, il semble que non. L'avantage de la fiction est très bien démontré par la recherche, même si on n'arrive pas encore à tout à fait expliquer comment cela se produit. Deux chercheurs en psychologie ontariens ont toutefois avancé une hypothèse influente. Donc, selon Raymond A. Maher de l'Université York et Keith Oatley de l'Université de Toronto, la fiction agirait comme un simulateur d'expérience sociale. Comme un simulateur de vol permet à l'apprenti pilote de pratiquer des manœuvres d'atterrissage complexes en toute sécurité, bien, la fiction crée une expérience profonde et immersive. Mais bon, il y a toujours un mais, hein, n'est-ce pas, Hélène? Malgré tous ces bénéfices, ben, les statistiques montrent clairement qu'un peu partout dans le monde, les gens lisent de moins en moins pour le plaisir. La quantité de lecture, alors quand vous allez affronter à la recherche du temps perdu, oui. Là, c'est plusieurs heures, hein? La longueur
c'est un projet.
Le nombre des livres terminés, tout cela est en baisse. Hein? Je souligne le nombre des livres terminés. On les commence, on les finit pas.
Oui, on dirait qu'on a perdu l'attention, on est pressé.
Exactement. Alors, et c'est en baisse tant chez les adultes que chez les enfants. On constate aussi une baisse du nombre de lectures obligatoires, semble-t-il, imposées à l'université. En cause, ben, vous avez parlé de peut-être ce manque d'attention. Et ce manque d'attention, il est provoqué par quoi? Les écrans gobeurs de temps. L'injonction à travailler pendant nos temps libres. La difficulté des étudiants et des étudiantes à se concentrer sur des textes longs. Une certaine dévalorisation sociale de l'importance de lire toute la vie aussi. On tend beaucoup à associer la lecture aux apprentissages scolaires, mais la lecture, on en a besoin dans la vie quotidienne pour la santé cognitive et mentale, comme on a besoin du sport et de l'alimentation pour la santé physique. On pourrait même aller jusqu'à dire que la lecture est bonne pour la santé physique, puisque selon une étude américaine menée auprès de 3635 personnes âgées, ceux et celles qui lisent beaucoup de livres vivent plus longtemps. C'est pas un bon argument. Et ce, même quand on tient compte des différences de revenus, de niveau d'éducation, de sexe ou d'état de santé. La recherche publiée en 2016 dans Social Science and Medicine montre toutefois que l'effet protecteur de la lecture est plus grand quand on lit des livres que quand on lit des magazines ou des journaux. N'empêche, si la recherche montre des avantages spécifiques à la fiction ou à la lecture de livres, n'importe quelle sorte de lecture a des bénéfices sur le cerveau, nous rappelle Sandra Martin-Chang. Documentaires, bandes dessinées, romans, essais, biographies, pièces de théâtre, poésie, même le guide de l'auto. Dans un contexte où la population lit de moins en moins, chaque livre, et peut-être magazine, ajoute entre parenthèses l'auteur de cet article.
Et on peut lire à travers nos écrans, il y a plein de choses. Il y a,
ouais, mais
tous ceux qui lisent des romans dématérialisés, là, numériques.
Oui. Mais vous ne trouvez pas que c'est plus difficile que quand on a le livre entre les mains?
Ah oui, en ce qui me concerne, oui. Je préfère avoir l'objet entre les mains.
Oui, exactement aussi. Bon. Quand on lit, qu'on lit est une victoire, même s'il s'agit d'un ouvrage moins littéraire. La chercheuse Sandra Martin-Chang déplore d'ailleurs le book-shaming, c'est-à-dire l'attitude par laquelle on dévalorise la lecture de certains types d'ouvrages, les romans d'amour ou la littérature jeunesse.
Ah, tu lis ça, toi? Non, mais une question avec un préjugé, là, dedans.
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est des livres de piètre qualité. Ben non, pas nécessairement. Alors ainsi, des écoles interdisent carrément certains livres populaires pour inciter les jeunes à se frotter aux classiques. Je cite Sandra Martin-Chang qui dit « Je suis en faveur de l'enseignement des classiques, mais sans interdire d'autres lectures plus proches des intérêts des jeunes. Sinon, on risque de leur inculquer un désamour de la lecture. » La recherche est claire, c'est en lisant qu'on devient bon lecteur, d'où l'importance d'encourager les enfants à lire pendant l'été. C'est encore plus crucial chez ceux et celles, je dirais enfants et adultes, qui ont des difficultés de lecture. La recherche sur la motivation montre que pour avoir le goût de lire, il faut se sentir capable de le faire, mais peut-être à petite dose, tout doucement, on commence. L'enfant qui trouve ça difficile risque d'être de moins en moins porté à lire. Il aura donc moins d'expérience de lecture. Il va être exposé à moins de mots nouveaux, à moins de phrases complexes. Par conséquent, il ne comprendra pas bien ce qu'il lira. Un cercle vicieux risque alors de s'installer. Ben, pour renverser la vapeur, il faut augmenter l'expérience en lecture afin que celle-ci devienne plus facile et positive. Donc, il faut faire les bons choix de lecture et on y va de soi. Alors, oui, lire l'été, c'est fondamental pour les enfants. Pour les adultes aussi, d'ailleurs, surtout si on a délaissé la lecture pendant une certaine période de notre vie ou de l'année. Une fois qu'on recommence à lire, ça devient plus simple, ça va plus vite, c'est moins énergivore, il y a plus de détente et surtout, Hélène, plus de plaisir.
Mmh. Ben oui, on y revient toujours. Faire partie d'un club de lecture, ça peut être très stimulant aussi.
Oui, mmh. Tout à fait. Moi, je participe à un comité qui doit choisir un livre parce qu'à Eastman, on a une activité qui s'appelle Un livre, un village qui existe depuis 15 ans. Alors, ben, ça nous oblige dans un premier temps à lire des livres québécois, d'où oui. Ma lecture de Baignade. Et cette année, on a choisi Petite Ville.
Petite Ville? Ah, oui. Je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas? Ah, Hélène, il faut lire ça. C'est de Milika Abdel Moumen. Et c'est vraiment un livre très touchant.
Ah oui, Petite Ville, donc.
Petite Ville, exactement.
Merci. Yvan, vous semblez connaître le titre?
Non, c'est l'autrice qui est vraiment quelqu'un qui a une belle réflexion et une très belle plume. Mais Monique, je voulais juste savoir, moi, évidemment, je suis très en faveur de tout ce que vous avez dit sur la lecture, mais je voulais savoir le phénomène du livre audio. Est-ce qu'il a été étudié ou mentionné? Puis qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet sur les gens par rapport à la lecture d'un livre physique?
Dans l'article, malheureusement, on n'en parle pas.
Il faudrait inviter Clotilde Seille. Qui, oui, elle, croit au livre audio et je pense qu'elle a raison aussi.
Écoutez, je pense que c'est comme, en fait, lorsqu'on fait la lecture à quelqu'un qui a une difficulté visuelle, je pense que c'est une belle façon de lire, bien sûr.
Une autre manière.
Cependant, je ne sais pas comment les enfants réagissent à ce type de lecture sans avoir en main avec des images, les personnages et tout. Bon, c'est sûr que si on a des difficultés de perception visuelle, c'est autre chose, là.
Mais en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Quand on fait un long voyage, là, ça peut être très agréable d'écouter un livre.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a le même niveau de concentration? Je ne sais pas.
Moi, en tout cas, le prochain livre que je veux lire avec mes oreilles, là, c'est, je pense que ça se peut-tu que ça soit Paul à la maison qui est disponible sur audio?
Oui.
Ah oui. Et, je vais aller voir la pièce, justement, dimanche.
Oui, j'ai vu la pièce aussi. C'est tellement bon, hein? C'est charmant. Mm-hmm. Et ben, justement, ça commence avec une citation, en tout cas, en ce qui concerne la pièce, parce que j'ai pas lu... j'ai lu la BD, mais je sais pas si dans la BD, on commençait avec une citation d'un roman de Danielle Steele, une des autrices préférées de la mère de Michel Rabagliati. Lui, il lit pas du Danielle Steele, mais c'est fait avec beaucoup d'amour, un petit peu de moquerie, mais beaucoup d'amour. Parce que c'est vrai qu'il faut pas juger ce que les gens lisent non plus.
Oui, tout à fait. J'ajouterais, Hélène, dans l'article, on nous dit, il y a un sous-titre là, des enfants perdus. Au Canada, 50% des jeunes de 6 à 17 ans disent avoir du mal à trouver des livres qu'ils aiment. Et c'est encore pire chez les lecteurs et lectrices occasionnelles. 70% d'entre eux ne savent pas quoi lire. Alors, je pense qu'il faut... peut-être écouter vos émissions, à vous, Hélène, où vous parlez beaucoup de livres. Écoutez, bien sûr, notre, Madame Seille. Et puis aussi, il y a quelques émissions à la radio qui nous permettent de découvrir aussi des œuvres
bien oui.
de, de différentes catégories.
Il faut ouvrir ses œillères. Mais oui. J'étais complètement dans le champ, moi, parce que c'est pas du tout... La pièce qu'on voit en ce moment, Paul à la maison, chez Duceppe, là, c'est présenté jusqu'au 22 juin et j'encourage les gens à y aller, là, si vous voulez voir Paul à la maison, mais Paul au théâtre. Et c'est pas nécessairement Jojo ce qu'il vit, mais il y a quand même beaucoup d'humour et d'espoir dans cette pièce. Rose à Lille, c'est le livre audio que nous propose Audio Rose à Lille. C'est la plus récente BD, roman graphique, devrais-je dire, de Michel Rabagliati. Oui. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur la réalisation de ce livre audio. Michel Rabagliati veillait au grain et c'est du beau travail de Jocelyn Lebeau à la réalisation. Et celui qui joue Paul dans Rose à Lille, dans ce livre audio-là, c'est... comment il s'appelle l'acteur, là? Steve... La plante.
Qui joue le rôle de la fille?
Ah, ça, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Il faudrait que je fasse des recherches rapidement. Mais c'est parce que j'allais dire que celui qui joue Paul au théâtre, c'est Hugues Frenette et il le fait de façon merveilleuse. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça aussi, Yvan.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, moi, j'ai été très accroché par toutes ces bandes dessinées-là et la reproduction au théâtre m'a tout à fait plu.
Ah oui, hein?
Oui. Je pensais que ça allait être très statique, mais je pense que l'esprit de la bande dessinée était bien représenté. Mais en même temps, on était intéressé par la suite des événements et c'était bien représenté sur la scène.
Mm-hmm. Et ça donne le goût d'aller relire ou lire, en tout cas, cette BD qui est très émouvante, Paul à la maison. Mais oui, on vous encourage aussi, si vous avez la chance d'aller voir la pièce. C'est une pièce qui va être présentée en tournée. Alors, pendant qu'on cherche qui joue Rose dans le livre audio, on va se permettre une petite chanson, Money, Money, Chic Macadam.